Dernière, nous étions arrêtés sur le thème de la tiédeur, avec cette référence assez simple à se rappeler. Tout le monde connaît Jean 3,16, Apocalypse 3,16, c'est aussi une référence assez simple. On va avoir tout à l'heure encore une autre référence avec un 3,16, mais la semaine dernière c'était voilà, qu'est-ce que la tiédeur, et surtout j'avais vraiment mis l'accent pour essayer de couper la tête aux malins, ou en tout cas lui couper l'herbe sous le pied, quand le diable essaye de nous faire croire que l'on est des tièdes, alors qu'on n'est pas forcément des tièdes, mais qu'on se sent peut-être juste un peu empoûté, ou qu'on est dans des moments difficiles. La tiédeur, c'est quoi? C'est quand on est complètement indifférent. C'est l'indifférence et se satisfaire dans cette indifférence. Et c'est ça la tiédeur. Et c'est pour ça que Jésus dira, de ces gens-là, mais je les vomirai. Parce que qu'est-ce que je peux faire avec des tièdes? Qu'est-ce que je peux faire avec des gens à qui je montre toute ma gloire? Ils sont complètement indifférents. On avait vu cet exemple avec ce roi Josias là, à qui on prie pour lui, on lui impose les mains, on lui dit, on lui explique que derrière chaque flèche, il y a une victoire spirituelle. Et puis lui, là, ouais, je fais, mais avec nonchalance, il n'y a pas de cœur. Il ne rentre pas dans les projets de Dieu. Alors on avait vu la solution que Dieu nous donne. Secoue donc, ça c'est dans la traduction parole vivante. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Et nous avons chacun besoin, assez régulièrement, pour ma part chaque matin, de me secouer, de me dire, rappelle-toi, les bontés de l'Éternel sont là. Amen. Amen. Christ aimant les ressuscités, il a promis d'être là avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et chaque matin, sous ma douche, je me dis, Seigneur, je veux ranimer mon courage avec toi. Non pas parce que je suis fort, mais parce que toi, tu es fort. Amen. Et ce matin, je voudrais aborder un autre thème qui est celui d'être... Normalement, c'est une petite flèche en bas. D'accord. Être... C'est écrit quoi?
Bien rempli.
Bien rempli. Vous avez vu que j'ai mis bien en majuscule. Alors, j'ai fait exprès de ne pas vous mettre déjà la suite. Si vous voulez, vous pouvez prendre les références, parce qu'on va les lire, enfin je vais vous les lire, ça évitera qu'on fouille dans la Bible tout à l'heure. Mais être bien rempli. Je voudrais introduire cette expression par une illustration qu'un enseignant avait donnée. C'est un enseignant, je crois, en haute école de commerce, ou je ne sais pas trop quoi, ou de marketing, de manager. Et un jour, il est venu en classe avec une sorte de grand vase transparent, et ce vase était vide, et il leur dit, voilà, est-ce que voilà, vous voyez ce vase, ok, et puis il a pris un caillou, il l'a mis dedans. Est-ce que le vase est rempli, est plein? Bah non, hein. Alors il a mis un deuxième caillou qui le remplissait à peu près aux deux tiers, un peu plus. Est-ce que le vase est plein? Non. Alors il a mis un troisième caillou, et là le caillou, bah vraiment, il déplaçait un petit peu. Est-ce que le vase est rempli? Et là les gens, ils ont répondu, bah oui, il est plein. Et là, forcément, la subtilité du cours faisait que non, il avait une solution. Alors il a apporté des gravillons, il a commencé à verser les gravillons dans ce vase qui était effectivement, il n'était pas rempli. Donc on imagine bien les gravillons qui commencent à rentrer dans les espaces vides entre les rochers. Ah là, les jeunes, ils ont été un peu pris de court. Et là, il leur a posé, alors maintenant, est-ce que mon vase, il est rempli? Non. Ah, donc il y en avait quelques-uns qui étaient plus hésitants, plus perspicaces comme vous, disaient, ben non, il n'est pas rempli. Alors là, effectivement, il a pris du sable. Là, j'ai l'impression que mon histoire, tout le monde la connaît déjà. Hein. Alors il a rempli le sable, et le sable a coulé et s'est mis entre chaque. Et là, est-ce que mon vase est rempli?
Non.
Et là, il a pris un pichet d'eau, il a commencé à remplir tout ça. Être bien rempli. Je crois que l'illustration que cet homme employait, c'est concernait la gestion du temps. Ah oui, la gestion du temps. Parce que nous aussi, dans nos emplois du temps, de temps en temps, on dit au Seigneur, j'ai pas le temps. Mais c'est normal parce qu'on a déjà commencé à remplir par le sable notre planning. Alors les trois gros rochers qu'on aurait pu mettre principaux, celle de prendre le temps de lire la Bible, de prier, de chercher sa face, ça on n'a plus le temps parce qu'on a déjà mis tout le sable. Alors les gros rendez-vous importants, on les met de côté. Donc comme quoi, ce sont des illustrations comme ça d'ordre pratique qui peuvent être spirituelles et puis rappeler des grandes idées spirituelles et des choses très pratiques et utiles. Donc, cet homme-là, Il a montré de manière visuelle que quelque chose que l'on peut considérer comme vide ou rempli par quelque chose peut être encore mieux rempli, bien rempli. Et nous, notre vie, elle doit être bien remplie. Est-ce que c'est nous qui l'avons dit ? Non, comme une sœur l'a prié tout à l'heure, c'est parce que c'est dans ta parole, Seigneur. Et la parole de Dieu nous invite à être rempli. Je ne sais pas si on a bien conscience de notre avantage que nous avons par rapport au verset que nous méditons depuis plusieurs semaines. Vous vous rappelez le verset que nous méditons depuis plusieurs semaines ?
Deux chroniques,
chapitre 7. Je commence déjà à avoir des sueurs froides, Seigneur, non ? Faites qu'ils s'en souviennent au bout de 3 mois et demi.
Si
mon peuple s'humilie. Alors, si mon peuple sur lequel
est invoqué
mon nom
cherche
ma face
et se détourne
de mes mauvaises voies, alors là il dit, là sera mon cœur, là sera mes yeux, j'exaucerai vos prières, je guérirai votre pays. Il y a véritablement une bénédiction incroyable, n'est-ce pas? Pouvez-vous me dire quel est l'avantage que nous avons aujourd'hui par rapport au peuple qui entendait cette exhortation et que nous méditons depuis quelques jours?
Ils n'avaient pas de relation avec Dieu.
David nous parle de relation. Il y a quelque chose de plus fort que ça. C'est que le peuple, qu'est-ce qu'il s'entend dire? Si vous vous humiliez, si vous priez, si vous cherchez ma face, si vous détournez de mes mauvaises voies, je vous promets de vous exaucer. Je vous promets d'être avec vous. C'est déjà énorme, non? Mais le Seigneur nous promet aujourd'hui à nous, non pas d'être avec nous seulement, mais d'être en nous. Nous n'avons pas seulement un Dieu qui répond, mais un Dieu qui répand. Nous n'avons pas seulement là une assistance, mais un soutien qui vient de l'intérieur. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront non pas sur lui, mais en lui, et jailliront jusque dans la vie éternelle. Et là, mes bien-aimés, je me demande si de temps en temps, on est conscient, mais de l'avantage extraordinaire que nous vivons. En 2015, nous sommes le peuple dans lequel Dieu veut vivre. Parce que, autant là, c'était par rapport à la construction du temple. Mais le temple n'est plus un édifice. Il est nous. Mais est-ce qu'on réalise, mes bien-aimés, que chaque jour, nous ne sommes plus seulement au bénéfice d'un Dieu qui entend. Nous ne sommes même plus seulement au bénéfice d'un Dieu qui exauce. Nous ne sommes même plus seulement au bénéfice d'un Dieu qui va nous assister, qui va nous aider. Mais nous sommes au bénéfice d'un Dieu qui va vivre en nous. D'où cette expression extraordinaire qui se trouve à plusieurs reprises. Être rempli. Et être bien rempli. Qu'est-ce que ça doit être, non? Qu'est-ce que ça doit être? Alors on va le lire. Alors là, je vous ai mis les références. Je vous invite à les marquer, comme ça vous rendrez le temps de les méditer à la maison. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous lire les versets, les uns après les autres. Et après, on va reprendre quelques points. Mais mettez-vous dans la situation la plus adéquate pour être bien attentif et être le moins distrait. Romains chapitre 13, verset 15. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns et les autres. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 4. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19. que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, que Dieu vous donne selon la richesse de sa gloire. Que Dieu vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans son amour, mais vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Colossiens chapitre 1 verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens chapitre 2 verset 2, qu'ils aient le cœur rempli de consolation, afin qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et enfin, 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est écrit. Et moi, je veux retenir deux choses. Si on va un résumé de tout ça. La première chose, c'est que c'est possible. Alors, soit j'ai que en face de moi des incrédules, c'est possible. Ou alors vous êtes tellement scotché que... vous êtes dans l'admiration des choses de Dieu. J'espère que c'est le deuxième cas. Mais c'est possible, mes bien-aimés. Et c'est là que je me dis, mais il faut que l'on soit bien renouvelé pour être bien rempli. Parce que tout ce qu'on vient de lire, c'est pas de la poésie. C'est pas de l'imaginaire. C'est pas du mysticisme. C'est pas des vues de l'esprit. Le Seigneur nous a en réserve quelque chose d'un potentiel, mais qu'on n'arrive même pas à mettre les mots. Être rempli de toute la plénitude de Dieu, moi je n'arrive même pas à imaginer ce que ça veut vraiment dire. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible. Ce que je sais, c'est que quand je dois m'approcher de Dieu, je dois m'attendre à vivre ça. Ce que je comprends quand je lis ça, c'est que le Seigneur ne m'a pas dit qu'il va exaucer mes prières. Ce que je lis là, c'est que le Seigneur n'a pas dit qu'il allait faciliter toute ma vie. Mais ce qu'il me promet, c'est de vivre dans l'atmosphère du ciel, mes bien-aimés. Et nous, dans quel état d'esprit est-ce que l'on est? Est-ce que l'on est peut-être encore dans le peuple comme dans l'Ancien Testament? Seigneur, il y a tes promesses, alors on prie. Mais quelque part, on espère que tu vas exaucer, on va espérer que tu sois avec nous. Et puis on oublie qu'en fait, nous sommes appelés à vivre dans le royaume de Dieu. Nous oublions que nous sommes appelés à être intégrés à lui-même. Nous oublions que nous devons faire un avec lui et que c'est lui qui vit en nous. Peut-être est-ce que nous perdons le goût du ciel. Peut-être est-ce que nous perdons le goût de chacune de ces choses-là. Je m'interroge en tant que pasteur. Et en tant qu'individu, qu'est-ce qui fait que je prends du recul par rapport à la méditation de la parole? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je prends du recul dans mon intimité avec toi, Seigneur, dans ma prière, dans mon cœur à cœur avec toi, personnellement? Dès que je commence à quitter le goût du ciel, alors j'ai moins envie de prier. Alors quand je lis la Bible et que je sais pas, quelque part, mon cœur est comme un peu distant. Alors, elle me passionne moins. Et comme elle me passionne moins, j'ai moins envie de la lire. Et comme je la lis moins, elle me paraît, oh, je la connais, quoi. Le but de ce matin, en évoquant tous ces points, ça va être, j'espère, de vous redonner du sel. Que vous puissiez vous dire, mais Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'atmosphère du ciel que tu m'invites à vivre. Tu ne m'as pas dit seulement qu'il y aurait le ciel ici, que moi je serais là, que je vais prier, que j'espère qu'à un moment ça va se connecter comme ça, là, comme une sorte de petit sursaut, une petite étincelle électrique quand on apporte un truc électrique et poum, oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Non, nous sommes appelés à vivre dans le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu est invité, veut vivre dans le nôtre. Je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, alors j'entrerai et je resterai avec lui. Pas seulement pour quelques instants, mais pour connaître cet remplissement. Alors je sais que le mot remplissement n'existe pas, j'espère que vous le comprendrez. Mais remplissage, je trouvais ça moche. Mais que nous puissions ce matin renouveler notre cœur et nous dire, mais c'est vrai Seigneur, c'est à ça que tu m'as appelé à vivre. C'est pas seulement pour les autres. C'est pas seulement pour quelques spécimens de l'église. C'est pas pour les professionnels de la prière. C'est pas pour ceux qui sont plus intelligents que moi. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et on va voir. C'est une question de foi. Et uniquement de foi. Uniquement. C'est le seul critère. Et pas une foi intellectuelle, mais une foi d'enfant. Une fois qu'il se dit, mais si c'est écrit, je vais le vivre. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Et mes bien-aimés, ça change tout. Quand dans notre vie spirituelle, on commence à dire, Seigneur, je prie. Mais je ne prie pas pour que tu m'exauces, je prie pour que tu me fasses goûter l'atmosphère du ciel. Et après, effectivement, il y aura la prière. Après, la prière sera mélangée avec cette adoration, avec ce cœur à cœur, avec cette atmosphère du ciel. Mais ce n'est plus une lutte. C'est une joie, c'est un cœur à cœur, c'est une intimité telle que Jésus en a parlé. Être rempli de toute joie et de toute paix. Mais comment est-ce que c'est possible? Être rempli de la paix et de la joie. Vous avez déjà fait cuire un poulet rôti chez vous? Qu'est-ce qui caractérise la cuisson du poulet rôti?
Le temps.
Le temps. Doré. En fait, je vous pose la question parce que je peux te dire, c'est peut-être purement personnel.
Ça va doucement.
Doucement. Ok. Alors, moi, tout ce... Hein? Ah, l'odeur. Ah, tu me rassures, on est au moins deux. Moi, tout ce que je sais dans le poulet rôti, c'est la bonne odeur qui se dégage. Le reste, j'en sais rien, franchement, là. Que ça dure, le thermostat, j'en sais rien. Mais si un jour je vois un poulet là, même avec, vous me dites, ça dure depuis deux heures, gna 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 gna, ça croustille. Mais s'il n'y a pas d'odeur, pour moi, votre poulet, il n'a pas de sens. Lorsque nous prions, mes bien-aimés, l'atmosphère du ciel, c'est la paix et la joie. De la même manière que l'odeur du poulet rôti, il n'y a que le poulet quoi qui a cette odeur, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui ressemble à cette bonne odeur là. Mais la prière, la présence du ciel, c'est cette paix et cette joie. C'est la marque. C'est la marque de la présence du Seigneur. Et lorsque nous prions, lorsque nous cherchons sa face, lorsque on s'humilie, lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche sa face, lorsqu'on se détourne de ses mauvaises voies, lorsqu'on veut s'approcher de lui, lorsqu'on veut méditer sa parole, il y a une chose auquel nous devons toujours veiller et nous attendre. C'est à cette bonne odeur, à cette atmosphère de cette paix et de cette joie. Et nous avons le droit de dire, Seigneur, je vais prier, mais Seigneur, je m'attends à ta paix et à ta joie. Il faut qu'il y ait ça. Parce que si on retire ça, c'est comme si on disait, je vais acheter un poulet sans odeur. Je vais acheter un poulet rôti sans odeur. C'est pas possible, ça vient forcément avec. Et s'il n'y a pas l'odeur, c'est qu'il n'est pas cuit. Eh oui! Si j'achète un poulet rôti qui n'a pas d'odeur, c'est qu'en fait il n'a pas été cuit. C'est qu'il est encore tout congelé. Donc si dans notre vie spirituelle, nous ne goûtons plus à cette paix, cette joie. C'est tout à fait normal qu'on dise, oh la prière, j'arrive pas. Mais oui, parce qu'on n'a pas passé le poulet au four en fait. Donc on se dit, le poulet rôti, c'est pas bon, mais si, c'est très bon. Mais t'as oublié qu'il y a cette saveur. Tu sais plus ce que c'est. Tu ne goûtes pas la vraie vie spirituelle. Et mes bien-aimés, quand nous prions, quand nous cherchons sa face, quand nous disons, Seigneur, je veux me rapprocher de toi, il faut que nous disposions, non pas... Comprenons bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que nous recherchions une sorte de satisfaction personnelle. Mais nous devons réaliser que la paix et la joie qui vient par le Saint-Esprit, ça fait partie de l'atmosphère du ciel que le Seigneur veut que nous, dont nous soyons remplis. Ce n'est pas une recherche individuelle. Que vous soyez remplis, ça fait partie des choses que Dieu veut que l'on soit. C'est son désir, c'est sa volonté, c'est son projet pour nous. Être rempli de cette paix, de cette joie, ce n'est pas une question de caractère. Ce n'est pas une question de force de caractère. Ce n'est pas non plus une question de disposition de cœur. Ce n'est pas une question de difficulté ou pas. Paul le dira, que c'est au milieu de toutes les afflictions qu'il est rempli de cette paix, de cette joie. Et c'est ça qui est extraordinaire que nous avons avec le Seigneur Jésus. C'est que ce qu'il nous a donné ne vient pas de l'extérieur, qui pourrait être entaché par les circonstances. Mais ce qu'il nous a donné, ça vient où ça? Oh non! Alors oui! Et on sait que ça fait partie de la vie. Qui dans sa vie ne vit pas ou n'a pas vécu de profonde déception? Qui ne vit pas avec une partie de ses rêves qui a été entamée, bousillée peut-être? Qui ne vit pas avec des déchirures, des blessures? Qui ne vit pas avec des points d'interrogation dans sa vie? Qui ne vit pas avec des points d'incompréhension et de douleur? Qui? Ça ne peut pas exister. Parce que le diable, il est meurtrier dès le commencement. Donc son premier but, c'est de ravager tout ce que Dieu fait. Et personne n'est exclu de ce combat. Personne! Prenez les photos actuellement de la Syrie, etc. Regardez les villages qui sont en guerre. Ils sont ruinés! Ruinés! Et nous sommes des champs de ruines. Mais dans laquelle Dieu met la vie. Amen. Alors bien sûr, il y aura des afflictions. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu nous dit que dans ces afflictions-là, le Seigneur en fait sortir sa paix et sa joie. Non par nos forces, non par nos caractères, non par les circonstances, mais par la foi, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Alors Seigneur, si tu me le dis, Seigneur, je ne veux pas mettre ça de côté. Pourquoi est-ce que je vais me priver? Pourquoi? Par incrédulité, par dureté de cœur, par fausse spiritualité? Il n'y a rien de spirituel à être sévère et dur avec soi-même. Être rigoureux, oui. Être exigeant, oui, mais se priver de la joie et de la paix du Seigneur, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Être rempli de son esprit, mais c'est ce que Dieu veut. Vous connaissez Galates 5, 22? Je vous ai forcé des mois à l'apprendre. Allez, je vais vous le lire maintenant dans une autre version. En parole vivante. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. C'est de ça dont nous devons être remplis. Et reconnaissons-le. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous venons de le lire, c'est pas en nous par nature. On a besoin que ça vienne du ciel et que ça se dépose en nous. Et que ça grandisse, que ça se développe en nous. Comme une graine qui prend de plus en plus de place en nous, au-dedans de nous. Si le Seigneur nous demande d'être remplis, c'est parce qu'il sait très bien que si nous ne sommes pas remplis de cette paix, de cette joie, de ce caractère de l'Esprit de Dieu, alors nous ne pourrons jamais être ce que nous venons de lire. On pourra dire, ah oui, c'est bien. Ah oui, ce serait tellement bien que mon épouse soit comme ça. Mais nous ne le serons jamais nous-mêmes. Parce que, comme on ne connaîtra pas cette douceur, cette paix, cette joie qui vient du ciel, alors on ne saura même pas qu'est-ce qu'il faut réellement communiquer. Quand on lit Philippiens chapitre 3 et chapitre 4, Paul dit souvent deux mots, lesquels ? Réjouissez-vous. 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 Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais même au milieu de la difficulté, bien sûr. Et c'est pour ça que Paul, parmi les termes que l'on a lus, nous parlait d'être rempli de sa consolation. Oui, il y a une consolation dans le Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Il y a un remplissement de consolation. Fini, et on l'a chanté encore tout à l'heure, donne-moi le courage de marcher sur tes eaux, d'oublier mon passé et d'aller de l'avant avec toi. Et il y a des forces qu'on ne peut pas trouver en nous-mêmes. Il y a des blessures qui sont trop humaines, trop légitimes. Et Seigneur, je veux être rempli de ta consolation. Et ça fait aussi partie de ces choses que l'on doit rechercher et vivre intensément. Seigneur, je ne veux pas rester à côté de tes projets, mais je veux que tes projets prennent naissance en moi. Il y a un chant qu'on n'a pas chanté ce matin, mais merci pour tous ces chants qui étaient si inspirés, mais qui disaient quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Tu es là. Et moi, pendant longtemps, ces versets-là, ce chant-là, je l'aimais pas trop. Oh, quand j'ai besoin d'amour, que j'ai besoin... C'est bon, t'as toujours besoin qu'il te câline. Mais j'ai compris que quand il est parlé d'amour, de paix, de consolation, en fait, c'est les choses dont on doit être rempli. Parce que toi, tu voyais ça avec sensiblerie, mais c'est pas du tout de la sensiblerie. C'est ce dont Dieu veut que nous soyons remplis, et bien remplis. D'amour, de consolation, de paix, évidemment. Ça fait partie des choses, mes bien-aimés. Lorsque nous nous mettons en prière, que nous avons le besoin, la nécessité de dire « Seigneur, je veux vivre ces choses-là, je veux m'approcher de toi, je veux que mon cœur soit largement ouvert, je veux vivre cette relation avec toi. » Une autre des conséquences un autre point que Paul évoquait, il disait qu'il était rempli. Non, et il disait qu'afin que nous soyons, que nous abondions en espérance. Ce n'est pas les systèmes politiques qui vont nous donner de l'espérance. Ce n'est pas peut-être non plus notre situation personnelle, professionnelle, qui va nous donner de l'espérance. Ce n'est absolument pas, je pense, le contexte géopolitique qui va nous donner de l'espérance. Mais le Seigneur, lui, est celui qui donne et qui nous fait abonder en espérance. Je crois qu'on a déjà tous vécu ça au moins une fois. Mais le Seigneur veut que l'on vive chaque jour. Une situation qui nous décourageait. Une situation même qui nous accablait. Vous savez, ce genre de situation où on veut penser à autre chose, mais ça revient. Ça nous accable. On essaye de chasser ça de l'esprit, mais c'est comme un... C'est lourd, sourd, et ça grisonne tout ce que l'on fait. Ça grisonne nos relations, ça grisonne notre lecture de la Bible, ça grisonne nos moments de prière, ça grisonne nos relations avec les autres, ça grisonne notre service en Église, ça nous pollue. Et puis, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur arrive à toucher notre cœur. Et là, ce qui nous paraissait trop lourd est complètement ôté de notre épaule. Ce qui nous accablait a complètement disparu. Là où tout nous paraît être si sombre, si fermé, sans espérance, sans lumière, voilà que tout est chassé, balayé par un sou spirituel, n'est-ce pas ? On a tous vécu ça au moins une fois ? Le Seigneur veut que ça, on le vive chaque jour. Parce que c'est une disposition de cœur. C'est pour ça que Paul disait d'une église, je suis rempli de ce que vous soyez vous-même, plein de bonnes dispositions. Il faut que nous vivions chaque jour dans cette réalité spirituelle. Seigneur, tu me fais abonder en espérance. Alors les situations qui me découragent, Seigneur, je réclame ton espérance. Seigneur, les situations qui me rendent le faible, Seigneur, je compte sur ton espérance. Seigneur, remplis-moi de ton espérance. Une autre des caractéristiques du remplissement que nous avons lu, l'autre mot que Paul emploie fréquemment, c'est le mot de la connaissance. Que vous abondiez, que vous soyez remplis de la connaissance. Connaissance de quoi ? Oh, non pas seulement une connaissance intellectuelle, on le sait très bien, mais la connaissance de sa personne. La connaissance de son cœur. La connaissance de sa mentalité. La connaissance de sa présence. Ça fait beaucoup. Si nous avons une mauvaise connaissance de Dieu, nous vivrons une mauvaise vie spirituelle. Un jour, il y avait un homme, il croyait connaître son serviteur. « Oh, je sais que tu es sévère, que tu es dur. »« Ah bon ? Bah, si tu crois que j'étais comme ça, je vais te traiter comme tel que tu m'as dit. » Nous serons traités et nous vivrons avec Dieu selon qu'on le connaît. Il y a des gens qui disent « Oh Dieu, il est loin, il est éloigné. Dieu est trop parfait, nous ne pouvons pas avoir de relation avec lui. » Mais ces gens-là n'ont aucune relation avec le Seigneur Jésus. Dieu va nous traiter tel que nous le traitons. Seigneur, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Ok. Je vais pas m'occuper de toi non plus. Ce n'est pas qui, de la part de Dieu, a une sorte de mépris. Mais Dieu a un autre projet pour nous. Et d'ailleurs, il va le dire à ses disciples. Je vous parle plus en tant que serviteur, mais je vous parle en tant qu'ami. Et justement, quand il continue la phrase, il dit parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais un ami, il le sait. C'est pour ça que c'est tellement important d'être rempli de la connaissance de sa parole, de la connaissance de sa personne. Parce que selon ce que l'on sait être de Dieu, il va nous répondre par rapport à ce qu'on sait qu'il est. Si l'on sait que Dieu est rempli de miséricorde, alors on va s'attendre à sa miséricorde. Si l'on se laisse émerveiller par sa puissance, par sa force, par son autorité, alors on va s'attendre à sa force, à son autorité, à sa gloire. Que nous devenions amis, acceptons ce rapprochement d'intimité, de cœur à cœur, de face à face. Vous avez entendu parler de Moïse ? Moïse, il avait quelque chose de particulier. Quand il priait avec Dieu, qu'est-ce qui se passait ? Je crois que c'est un des seuls. Son visage rayonnait. Il rayonnait. Mes bien-aimés, le Dieu que nous connaissons est le Dieu qui peut nous faire rayonner de sa gloire, mes bien-aimés. Le Dieu que nous connaissons est un Dieu qui peut nous faire rayonner de sa gloire. Je ne parle pas seulement d'un effet visible de la chose. Je veux nous donner du sel dans notre bouche pour connaître ces moments de visitation. Seigneur, quand je me mets devant toi, je veux être comme un ami, je veux te parler face à face. Tu sais, comme t'as dit à Moïse, que tu te révélais face à face. Et quand il quittait de ta présence, alors les gens voyaient que son visage rayonnait de ta gloire. Seigneur, c'est ça que je veux moi aussi. Je ne veux pas dire que je suis un ami sans avoir de relation avec toi. Je veux être véritablement un ami. Je veux vraiment avoir ce face-à-face avec toi. Je veux vraiment avoir ce contact avec toi. Et tant de gens ont vécu cette expérience que quand leur cœur est asséché, un moment dans la présence du Seigneur, et leur cœur est renouvelé, ils retrouvent ce rayonnement intérieur. Et ça se voit à l'extérieur. Je ne dis pas ça pour viser quelqu'un en particulier. Mais ça se voit sur les visages, mes bien-aimés. Quand il y a la vie divine dans le cœur ou non. Et on le sait nous-mêmes. On sait nous-mêmes quand il y a une dynamique, quand il y a un feu qui est là ou pas. On sait quand notre sourire est plus vrai, généreux, spontané ou quand il ne l'est pas. On le sait, n'est-ce pas ? On sent quand notre cœur est spontané à la louange, à l'adoration ou quand il ne l'est pas. On sent quand nos yeux sont remplis d'espérance, de lumière, de vivacité, ou quand on ne l'est pas parce qu'on sent au-dedans de nous que nous-mêmes on est tout foutés. Et bien aimé, le Seigneur a des projets extraordinaires pour nous. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Seigneur, exauce-moi. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Seigneur, vis en moi. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta connaissance. Je veux rayonner de toi. Il y a une petite illustration qui fait sourire. Récemment, le roi d'Arabie Saoudite est mort. Et donc, il y a eu une nouvelle élection, mais un nouveau roi qui a été établi sur le royaume, l'Arabie Saoudite, l'émir. Et il y a une tradition en Arabie Saoudite qui veut que lorsque le souverain est mis en fonction, en signe de respect, d'obéissance au souverain, la tradition fait que le peuple, les gens devaient serrer la main du roi en personne. C'était un signe d'obéissance. À part qu'actuellement, ils sont tellement nombreux. Vous pourrez regarder sur internet. Hein. C'est pas des blagues, mais c'est pour nous dire que c'est l'antipode de ce que nous, on doit vivre avec le Seigneur. Alors, ils ont fait des grandes pancartes, des portraits du roi, avec une fausse main. Et les gens passent et ils serrent la main. Alors il y a un panneau du roi, enfin du souverain, avec une fausse main qui dépasse. Et les gens saluent. Et deux, trois autres, parce qu'il y a toute la classe politique. Et dans quelques endroits, c'est un peu mieux. C'est un faux roi, une vraie photo du vrai roi. Et c'est pas une fausse main, mais c'est quelqu'un qui est derrière avec un drap sur la tête. Il y a juste sa main qui dépasse. Vous savez, comme quand on met la tête pour prendre une photo là. Ben là, c'est pas la tête, c'est vraiment la tête du roi, sinon ça. Mais c'est la main de quelqu'un d'autre qui est derrière. Et comme ça, les gens serrent la main, une vraie fausse main, du vrai faux roi. Le Seigneur nous a pas appelé à avoir une vie chrétienne comme ça. Nous, on a une vraie vie avec le Seigneur. Amen.
Amen.
On est 7 milliards sur la terre. Le Seigneur est celui qui veut remplir les 7 milliards d'individus de sa présence, de sa consolation, de sa personnalité, de son amour, de son esprit. Il veut non pas seulement un petit peu, mais il veut bien nous remplir de sa présence à lui. Et si demain nous sommes 10 milliards, le Seigneur aura autant de bénédictions, de richesses, parce qu'il nous remplit selon quoi ? Selon la richesse de sa gloire. Et même si nous sommes 100 milliards, la richesse de sa gloire ne sera pas suffisamment petite pour remplir les 100 milliards d'individus qu'il y aura. Alors il peut le faire pour chacun d'entre nous. À Anceny, dans nos villages, dans nos maisons. Quand j'ai besoin, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'amour, tu es là. Quand j'ai besoin de ton esprit, tu es là. Seigneur, quand j'ai besoin de ta visitation, Seigneur, dans ma chambre, je veux m'attendre à ce que tu viennes me visiter. J'en ai marre de cette fausse vie. J'en ai marre de dire à l'église et de n'avoir de toi qu'une image. J'en ai marre de venir à l'église et de dire j'ai une relation avec toi alors que j'ai juste peut-être toqué la main sur une sorte de sensibilité. Ce n'est pas de l'émotion la vie avec le Seigneur, mais c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas un vague à l'âme, ce n'est pas une mélodie qui fait un frisson dans le dos, ça c'est de l'émotion. Ce qu'on a besoin, c'est de ce remplissement spirituel, de la connaissance, au point que notre visage rayonne. Et véritablement, parce qu'un vrai chrétien, ce n'est pas dans les formes que ça se voit, mais c'est dans son cœur, dans son dynamisme, c'est dans cette réalité intérieure, que vous soyez puissamment fortifié dans l'être intérieur, dira Paul. Rempli, Colossiens chapitre 1 verset 9, rempli de la connaissance de sa volonté. Ce n'est même pas fini que d'être rempli de ses caractères, rempli de sa présence. Le Seigneur veut que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Seigneur, je veux vivre chaque jour avec la conviction que ce que je fais, c'est ce que tu me demandes de faire. Alors Dieu n'est pas un Dieu mystique. Il ne va pas vous envoyer un texto chaque matin. Alors à 9h30, je veux que tu te laves les dents. À 35, tu fais ton lit. Et à 40, tu dois être déjà au bureau de poste. Non. Mais vivre avec la satisfaction d'avoir l'approbation de Dieu dans notre cœur. J'ai presque envie de dire, Dieu en a que faire de ce que vous faites. Sincèrement. Il n'en a que faire de ce que vous faites. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez en lui. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez véritablement dans une relation, dans une disposition de cœur, dans une communion avec lui. Après que vous achetiez une baguette ou un pain, c'est comme tu veux. Mais si nous sommes en lui, alors cela nous permet également d'être sensibles. Et alors on peut échanger avec lui sur tous les points. Vous attendez pas forcément à ce qu'il vous réponde de la baguette ou le pain. Mais ça peut aussi arriver, vous savez, qu'il vous dirige, qu'il vous oriente, afin de glorifier son nom, afin de créer des circonstances. Mais là, c'est une porte de relation. Et là, on revient sur ce que Paul résume, que vous soyez rempli de sa volonté, rempli de la connaissance de sa volonté. Mais c'est extraordinaire, une vie, mes bien-aimés. Quand on marche selon ce que le Seigneur veut que nous fassions, c'est tellement bon de vivre avec cette conviction, Seigneur, de vivre comme toi tu veux que je fasse. Et quand il y a des doutes, il y a des gens qui ont des doutes, on s'entend ici? Ouais, bon alors, Patricia, c'est très simple. Quand on a des doutes, il suffit de demander au Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur, remplis-moi de ta connaissance. Seigneur, je ne sais pas, sincèrement, je suis perdu. Je ne comprends pas. Seigneur, permets-moi de comprendre ce que tu veux de moi. Et Dieu parle, n'est-ce pas, d'une manière, d'une autre, par une prédication, par la lecture personnelle de la Bible, dans un temps de prière, par un don spirituel, et même, de temps en temps, par la bouche d'un inconverti, c'est jamais arrivé ça?
Oui.
Par les circonstances de la vie,
oui.
Par un déclic, dans une émission télé, bon, faut pas regarder la télé trop souvent quand même, hein. C'est quand même pas le premier canal de bénédiction du Seigneur. Mais Dieu se sert de ce qu'il veut.
Oui.
Un oiseau même,
oui.
Mais bien sûr, là je parle personnellement. Dieu nous parle par ce qu'il veut. Mais qui va être sensible? Ceux qui sont remplis de la connaissance de sa volonté. Ceux qui chaque jour disent, Seigneur, je veux être rempli de ta connaissance. Mais ceux qui ont ce cœur-là, bien disposé, être bien rempli. Seigneur, je veux être rempli de ta connaissance, Seigneur. Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Oh oui, ça il va nous entendre pleurer. Mais pendant ce temps-là, lui il est en train de préparer déjà la manière de nous parler. Et si nous sommes disposés à être bien remplis, alors pendant qu'on se rendra, oh, Seigneur, je comprends. Oh, merci Seigneur. Alors qu'on sera en train de pleurer, de gémir, de dire, Seigneur, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce qu'il faut faire, si tu fais rien, je vais mourir. Et bien le Seigneur, il nous envoie déjà la réponse. Mais ça, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ça, c'est une vie spirituelle. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu parle. Il donne des directions, il nous oriente, mais c'est à nous de bien discerner sa voix. Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix du Seigneur. La Bible dit que ce sont ses brebis. Soyons proches du berger. Exerçons notre oreille, notre cœur à entendre sa voix. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. En fait, ce mot timidité, ça pourrait être traduit par le mot un esprit de lâcheté, de défaitisme. Ce n'est pas un esprit de défaitisme que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de lâcheté, de petitesse, non. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Force, amour, sagesse. Mais y a-t-il pas tout ce dont on a besoin au quotidien là? Force, amour, sagesse. Force, courage, enthousiasme, dynamisme, amour, patience, bonté, amabilité, sagesse, discernement, maîtrise de soi, équilibre, modération. Mais bien aimé, l'esprit que Dieu nous a donné, où nous remplit de force, d'amour, de ça. Attends, mais il y a tout en lui, mes bien aimés, il y a tout. Il ne nous dit pas qu'il va nous donner un petit peu de ça. Il qui nous remplit de ça. Seigneur, mes bien aimés, nous n'avons rien à perdre à être remplis du Seigneur, n'est-ce pas? Rien. Rentrons dans la nouvelle alliance, mes bien-aimés. Rentrons dans cette nouvelle alliance. Rentrons dans cette relation. acceptons que l'Esprit de Dieu rentre en relation dans notre cœur, qu'il pénètre. Seigneur, je ne veux pas seulement que tu répondes, je veux que tu répandes de ton Esprit. Seigneur, je ne veux pas seulement que tu sois avec moi, mais je veux que tu sois en moi. Nous avons le droit de dire chaque instant, Seigneur, je veux être rempli de toi. Je veux être rempli. Alors oui, nous ne sommes pas appelés à être ce vase rempli de cailloux, de gravillons, de sable ou d'eau. Si nous voulons même être une image à ces choses-là, débarrassons-nous de nos cailloux, de nos fardeaux, de nos péchés, de nos misères. Retirons tout ce qui est pesant. Amen. Et laissons-nous remplis de sa paix, de sa joie, de sa consolation, de son espérance, de sa connaissance, de son amour, de sa force et de sa sagesse. Sommes-nous prêts à nous laisser remplir de ça et de réaliser que quand nous lisons la Bible à la maison, Seigneur, je vais être rempli de toi. Je veux me sentir rempli de toi. Quand je ferme les yeux, que je cherche ta face, que je prie, que je veux m'humilier devant toi, Seigneur, je veux me laisser remplir de cette atmosphère du ciel. Et quand on viendra dans l'église, Seigneur, on te loue, mais on ne veut pas seulement chanter pour chanter, on ne veut pas seulement chanter pour faire entendre nos voix, on ne veut pas seulement chanter et créer de l'enthousiasme, mais on veut en même temps se laisser remplir de tout ça. Amen. Et là, les vagues de l'Esprit viennent. Et là, les vagues de l'Esprit renouvellent. Et là, les vagues de l'Esprit nous permettront d'aller plus loin. Amen.